De commencer ce message et je vous invite à prier. Seigneur Jésus, vraiment nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir être au bénéfice de ta mort et ta résurrection. Aujourd'hui, nous pouvons nous placer devant un Dieu juste et un Dieu qui ne supporte pas le mal. Et vraiment, merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir un accès à toi qui était complètement impossible. Seigneur Jésus, vraiment, tu nous appelles ce matin et tu nous interpelles ce matin à travers ta parole. Et je te prie que tu vois ce sujet grave dont on va parler. Et je te prie que tu éclaires nos vies, que tu travailles nos cœurs pour qu'on puisse accepter ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Donc juste, j'aimerais reprendre les dernières paroles de ce chant. Alors, juste avant. Alors, ta joie et ta paix inondent de mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Alors, ça c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai de temps en temps, mais c'est pas toujours vrai. Dans nos vies, parfois, c'est pas toujours si simple. Merci, Christina. Ce matin, nous allons parler d'un sujet grave, un sujet qui nous touche. Nous sommes capables d'aller dans l'espace, de préparer des armes nucléaires, capable de détruire des millions de personnes. Par contre, nous ne sommes pas capables de maîtriser ces phénomènes. Nous sommes capables de créer des cœurs artificiels, de confectionner des médicaments révolutionnaires, mais nous ne sommes pas capables d'enrayer les conséquences de ces phénomènes. En bref, nous sommes devant ces phénomènes complètement désarmés, complètement nus. Nous croyons être les maîtres du monde. Pourtant, ces phénomènes nous désarment. L'homme scientifique, l'homo sapiens, n'est pas capable d'enrayer ces phénomènes qui renversent nos vies lorsqu'ils nous touchent personnellement. Devant ces phénomènes, l'homme crie, qu'il soit croyant, qu'il soit athée, il crie. Dans tous les cas, il crie vers Dieu, que cela soit pour exprimer son incompréhension ou que cela soit pour exprimer son doute sur son existence. Il crie. Avez-vous deviné de quel phénomène je parle ? Je parle du phénomène qui nous ébranle tous, les catastrophes naturelles. Soit elles ne nous touchent pas, et auquel cas elles sont une arme facile entre les mains des personnes athées pour justifier qu'un Dieu est... comment un Dieu qui existe puisse être aussi cruel. Soit elles nous touchent vraiment, elles sont une véritable question que nous devons traiter, sans quoi celle-ci pourrait être un obstacle majeur pour notre foi. Nous sommes devant l'un des obstacles, l'une des questions les plus difficiles pour le christianisme. Les catastrophes naturelles ont-elles un sens ou doivent être subies comme une fatalité ? Les catastrophes ont-elles un sens ou doivent-elles être subies comme une fatalité ? Pour étudier cette question, nous allons étudier un livre de l'Ancien Testament. Selon M. Stewart, nous allons étudier l'un des livres les plus brefs de l'Ancien Testament, mais l'un de ceux qui nous dérange le plus et nous oblige à examiner nos cœurs. De quel livre s'agit-il ? Ceux qui le savent, car je leur ai dit, n'ont pas le droit de parler. Vous avez le choix. De quel livre va-t-on étudier ce matin ? Vous avez le droit de dire. Pardon ? Non. Non, un petit livre. Non. Non. J'ai entendu Joël. Nous allons étudier Joël. Donc, ce matin, nous allons avoir une lecture qui ne va pas être suivie. C'est-à-dire, je vais commenter en même temps. Donc, je vous invite à garder, si vous n'avez pas une Bible, il y a Eric qui est prêt à vous en donner une, pour que vous puissiez, tout au long du message, regarder attentivement ce que le texte nous dit, parce que nous allons le commenter au fur et à mesure que nous allons le lire. Donc, ayez tous une Bible. Je vous invite à lire avec moi Joël, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 11. Donc, comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas lire tout d'un coup, mais je vais lire par verset et par portion de verset. Verset 1, vous y êtes tous, Joël, chapitre 1, verset 1. Parole que l'Éternel a adressée à Joël, fils de Pétuel. On ne connaît pas grand-chose sur Joël, à part que son ministère avait été autour de 800 ans avant Jésus-Christ. Il s'adresse aux habitants de Juda, les habitants du royaume du Sud. Comme Pierre nous l'a indiqué la fois dernière, le pays a été divisé à la suite du règne de Salomon entre le nord dirigé par Jéroboam et le sud dirigé par Roboam, qui prendra le nom de Juda, la tribu de Juda. La mention du prophète Joël n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament, sauf Pierre le cite, mais c'est dans le Nouveau, à la Pentecôte. Versets 2 et 3. « Écoutez ceci, vous, responsables du peuple, et vous tous, habitants du pays, prêtez l'oreille. Est-il de votre temps, ou bien du temps de vos ancêtres, ou bien du temps de vos ancêtres survenu rien de tel? Racontez-le à vos enfants, qu'eux-mêmes le racontent à leurs propres enfants, qui eux le transmettront à leurs propres enfants. » Ce que l'on peut voir, c'est que Joël ménage le suspense. Écoutez ceci, nous dit le texte. Prêtez l'oreille. Vous est-il survenu quelque chose de tel? Il faut absolument que vous en parliez à vos enfants et aux générations futures. Joël nous parle d'un fait d'une importance sans égale et qui a des conséquences grandes. Ce fait ne nous paraît être oublié si facilement, mais de quoi s'agit-il? Joël travaille sa com. Il tient en haleine son auditoire. J'espère que vous êtes en haleine, vous aussi. Verset 4. Ce qu'a laissé le vol des sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Ça y est, le fait est là. Les sauterelles font passer tellement de fois qu'à chaque passage, elles ont dévoré ce qui restait. L'accumulation montre qu'il n'a pas dû rester grand-chose à la fin. Ce fait est terrible, il n'a rien laissé sur son passage. Joël utilise ces quatre termes comme des synonymes et les principaux exégètes du texte s'accordent pour désigner les sauterelles comme le terme principal. Cette histoire a-t-elle une explication pour les Judéens? A-t-elle un sens ou est-elle seulement le fruit d'un hasard fataliste? Verset 5. Réveillez-vous, ivrogne, pleurez, nous dit Joël. Hurlez tous les buveurs de vin, oui, car le vin nouveau est ôté de vos bouches. Joël est sans détour. Il désigne le peuple de Juda d'ivrogne et lui demande de pleurer, car le vin, celui qui permettait de se réjouir, lui est maintenant enlevé. Grosso modo, c'est bien beau de picoler, mais maintenant il n'y a plus de vin pour se bourrer la tête. Le vin a tellement engourdi l'esprit des Judéens qu'ils ont perdu tout sens et toute sensibilité au mal. Versets 6 et 7. Un peuple attaque mon pays. Il est puissant. On ne peut le compter. Il a des crocs de lion. Il a des dents de lion. Il a fait de mes vignes une dévastation et mes figuiers. Il les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. Les conséquences du passage des sauterelles sont terribles. La dégradation est omniprésente. Le passage des sauterelles ressemble à l'attaque d'un lion qui a tout déchiqueté sur son passage, ne laissant que des restes. Mais est-ce que tout cela a une explication? Ou est-ce le fruit du hasard? Versets 8 à 10. Lamente-toi, mon peuple. comme une jeune femme qui aurait revêtu le vêtement du deuil pour pleurer le mari de sa jeunesse. Quant au temple de l'Éternel, libation et offrande lui font défaut. Les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari. Joël appelle le peuple à être dans le deuil, appelle, toujours pareil, Judas à être dans le deuil. Le deuil domine complètement cette tension. Vêtements de deuil. Les prêtres sont dans le deuil. Au deuil du peuple fait écho le deuil de la terre et les conséquences du ravage sur les hommes impactent la terre. Cela ressemble étrangement à la Genèse et les conséquences du mal. Son point culminant est dans le fait que le culte n'est même plus possible. La cessation du culte signifie la cessation des rapports avec Dieu. Ce fléau a-t-il un sens pour le peuple de Juda? Le sens se dévoile progressivement. Versets 11 et 12. Les laboureurs sont dans la honte. Les cultivateurs des vergers et les vignerons hurlent à cause du blé et de l'orge, car il ne reste rien de la moisson des champs. Les vignes sont honteuses et les figuiers s'étiolent. Le grenadier et le palmier, l'abricotier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie est dans la honte parmi les hommes. La mesure du désastre est grande. Le fléau des sauterelles font peser une lourde menace sur l'existence humaine. Perdre le fruit de son travail est une grande calamité pour l'homme. La honte est au centre de ce passage et elle a remplacé la joie. Dans l'Ancien Testament, perdre le fruit de son travail est souvent le présage d'un jugement. Versets 13 et 14. Revêtez-vous d'un habit de toile, de sac, vous prêtres, lamentez-vous. Hurlez, vous tous qui officiez devant l'autel. Venez passer la nuit vêtus d'un habit de toile, de sac, vous qui servez mon Dieu parce qu'il n'y a plus ni offrande, ni de libation qui arrive dans le temple de votre Dieu. Publiez donc un jeûne et convoquez une réunion cultuelle. Rassemblez les responsables du peuple avec tous les habitants du pays au temple de l'Éternel de votre Dieu. Suppliez l'Éternel. Le peuple est invité par le prophète à une lamentation publique. L'expression à l'époque de cette lamentation se faisait en revêtant un sac. La nécessité que cette lamentation dure toute la nuit, nous dit le texte, venait passer la nuit vêtue d'un habit de sac, laisse supposer que la situation était extrêmement grave. La rupture entre le peuple et Dieu est consommée, puisque la possibilité d'apporter des offrandes à la maison de l'Éternel est impossible. La nécessité de convoquer une réunion cultuelle semble montrer une fois de plus le caractère gravissime de la situation sur Juda. Cet appel solennel du peuple à une introspection nous montre d'ores et déjà que les sauterelles ne sont pas le fruit du hasard. Dieu souhaite que le peuple change. La prière semble être le seul recours devant cette situation. Je vous invite à lire le verset 15 à 20. Hélas, quel jour, le jour de l'Éternel approche comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir. Car ne nous a-t-on pas ôté la nourriture sous nos yeux? Et du temple de notre Dieu n'a-t-on pas retiré la joie et l'allégresse? Les graines répandues pourrissent sous les mottes. Les greniers sont en ruine, les filots démolis, car le blé fait défaut. Écoutez le bétail comme il gémit. Les troupeaux de bovins ne savent où aller, car ils ne trouvent plus de pâturage, et les troupeaux de moutons et de chèvres sont atteints eux aussi. C'est vers toi, Éternel, que je pousse des cris. Oui, car le feu dévore les pâturages de la steppe, et les flammes consument tous les arbres des champs. Et même, verset 20, les bêtes sauvages vers toi se tourne, car les cours d'eau sont taris. Le feu dévore les pâturages de la steppe. Qu'est-ce qui est à l'origine de la situation décrite jusqu'ici? C'est tout simplement la sécheresse des versets 16 à 20 qui a amené l'armée de sauterelles du chapitre 2 que nous allons lire tout à l'heure, les versets 1 à 11. Le vent venant du désert d'Orient et du désert du Sud dessèche toute végétation. C'est aussi porté par lui que les essaims de sauterelles ont atteint le pays. Regardez avec moi le verset 16. Le peuple se voit ôter le pain de la bouche. La récolte qui semblait prometteuse est anéantie. Les ingrédients servant au culte sont enlevés. Verset 17. Les graines ne poussent plus comme conséquence de l'absence d'eau et le blé fait défaut. Verset 18. D'habitude, le bétail se contente de peu. Pourtant, là, toute verdure semble avoir disparu. Verset 19. La sécheresse semble avoir un impact sur les humains et sur les animaux. La solidarité dans la souffrance est présente entre les animaux et les hommes. La sécheresse était en plus aussi mentionnée par le Deutéronome comme sanction de la rupture avec l'Alliance. Deutéronome 28, 23 à 24. Mais verset 15. Hélas, quel jour! Le jour de l'Éternel approche comme un fléau dévastateur, déchaîné par le Tout-Puissant. Il va venir. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Joël. Ce verset est l'introduction et l'explication dramatique de la sécheresse. La panique est là. L'annonce du jour inquiète. Hélas, quel jour! L'imminence du jour de l'Éternel fait réfléchir. Le jour de l'Éternel approche. L'identité du jour, à savoir celui du Seigneur, nous impose une sainte crainte. Le carnage de cette journée, la dévastation, nous dit le texte, semble en être la conséquence. Pour Joël, nous sommes au cœur de son message. Le jour du Seigneur arrive dans notre histoire. C'est imminent. Le Seigneur intervient pour le jugement, pour régler ses comptes avec Judas, son peuple. Le prophète entrevoit donc la venue prochaine du jugement. Mais vraiment, Samuel, c'est horrible ce que tu es en train de nous dire. Dieu serait-il en train d'envoyer les catastrophes comme celle de la sécheresse et des sauterelles comme conséquence de la désobéissance? Ce n'est pas un Dieu d'amour, ça, c'est un Dieu qui se venge. Et ça, ce n'est vraiment pas un Dieu qui m'intéresse. Je vous invite à continuer avec moi, versets 1 à 10. Sonnez du cor dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez-vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses, comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Voici un peuple très nombreux et puissant. Il n'y en a pas eu de semblable par le passé, et après lui, il n'y en aura plus jamais dans les générations les plus lointaines. Un feu dévore devant lui et la flamme consume derrière lui. Avant qu'il ne foule, le pays s'étendait comme un jardin d'Éden. Mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. On dirait aller voir des chevaux qui s'élancent. Ils courent comme des chevaux d'attelage. Les voilà qui bondissent dans un fracas semblable à celui des chars cahotants au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore le chaume. Et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse. Tous les visages pâlissent de frayeur. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers. Et comme des soldats, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route. Oui, sans se bousculer les uns et les autres. Ils vont chacun sur son chemin. Ils se ruent à travers les projectiles. Rien n'interrompt leur marche. Dans la ville, ils se précipitent. Ils courent sur les murs. Ils escaladent les maisons. Passent par les fenêtres. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. La terre tremble devant eux. Le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat. Joël n'a rien à envier aux descriptions naturalistes d'Émile Zola. Sa description est d'une précision magnifique, avec de multiples images. Nous sommes revenus à la description des sauterelles, qui a été brièvement annoncée au début du chapitre 1. La sécheresse sert de cadre à l'invasion des sauterelles. Dans le Deutéronome, Moïse avait prévenu le peuple des sanctions qu'il encourait en cas de rupture de l'Alliance conclu par le Seigneur. La sécheresse et les sauterelles font partie des malédictions envisagées. Deutéronome versets 28, 23 et 24 et 38 à 42. Toute cette description n'est pas une autre invasion militaire, mais la description de l'invasion des sauterelles. Verset 1. Joël a pu se souvenir lors de la description de l'annonce du corps que celle-ci retentissait lors de la descente de l'Éternel sur le mont Sinaï, accompagnant la voix de l'Éternel que l'on retrouve ici. Le jour de l'Éternel est là, verset 1. Ce n'est plus seulement un futur, mais un présent, un participe. Et les sauterelles en sont son expression. Verset 2, les ténèbres et l'obscurité étaient aussi présentes sur le mont Sinaï qui porte trois des quatre termes de Joël. Dans les mains de Joël, le vol des sauterelles devient la nuée où Dieu se révélait. Les ténèbres qu'elles causent deviennent les ténèbres chaotiques du jour de l'Éternel. Atmosphère de terreur et d'épouvante. L'expression « il n'y en a jamais eu de semblable à lui par le passé, il n'y en aura plus jamais après lui » est très forte. Le fléau est terrible. Il est un prodige divin. Verset 3. Les effets sont terribles sur le pays. Toutefois, on peut remarquer que les sauterelles ne sont jamais nommées. Cette façon de procéder amplifie la terreur éprouvée et l'on n'ose même pas prononcer leur nom. Verset 4. La sauterelle, par sa rapidité, est dépeinte comme un cheval qui dévale les montagnes avec rapidité et détermination. Verset 8. Verset 5. Le bruit rend la tension extrême. Verset 6. Devant un tel fléau, le peuple de Juda ainsi que les peuples d'alentour, comme l'Égypte, sont saisis d'angoisse. Verset 7, la ville est attaquée, les murailles sont escaladées, la tension est réellement palpable. Verset 8, lors de la bataille, la cadence des sauterelles est parfaite, semblable à des milliers en ordre de bataille. Le même émerveillement se retrouve dans Proverbe 30, verset 27, à propos des sauterelles. Verset 9, la ville n'est jamais nommée, mais il ne peut s'agir que de Jérusalem. Verset 10. Les effets produits sur le cosmos sont également terribles. Ce verset 10 est l'expression d'image qui accompagne l'invasion terrible des sauterelles. Ce langage exprime l'écroulement de l'univers des Judéens. Il est intéressant de constater que les effets produits par les sauterelles ne font pas apparaître de bains de sang, de massacres d'habitants ou d'une invasion militaire. Mais les insectes sèment le désordre et provoquent bien des dommages. Un témoin de ce fléau nous rapporte la chose suivante. C'était chose pénible lorsqu'on sortait d'être frappé au visage par ces créatures, sur le nez, sur les yeux, les joues, dès qu'on ouvrait la bouche. Il y en avait une pour y pénétrer. Mais tout cela n'était rien, car lorsque nous coupions un morceau de viande, nous coupions en même temps une sauterelle. Et lorsque on ouvrait la bouche pour y mettre un morceau, on était sûr d'en croquer une. L'effet psychologique doit être considérable. Malaise, répugnance, sentiment d'impuissance. Le ciel des Judéens est en train de leur tomber sur la tête. Les Judéens étaient en train d'expérimenter ce que Astérix et Obélix redoutaient le plus. Mais devant tout cela, Sam, c'est pas clair. Tu as bien essayé de me montrer que Dieu était derrière tout cela, mais moi, je ne peux toujours pas l'accepter. Je vous invite à lire avec moi le verset 11. Tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes, son camp est tellement nombreux et il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible, à l'extrême. Qui pourra l'endurer? Ça y est, rien n'est plus caché par Joël. Le sens de notre histoire est donné clairement et il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. De nombreux indices nous ont orientés pendant toute la lecture et nous sommes obligés de dire que le Seigneur dirige tout cela. On ne peut dire autre chose, même si cela nous ferait plaisir. Le fait est terrible à l'extrême pour des gens comme nous qui croyons si souvent que nous avons un Dieu papa gâteau. Non, notre Dieu n'est pas cela. Les sauterelles constituent son armée et l'instrument de sa colère. Elles ont bien à leur tête un général et c'est le Seigneur, l'Éternel. Mais Joël n'est pas le seul à exprimer le jugement de l'Éternel sur son peuple. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à lire Amos 4, 6 à 11. Le Seigneur révèle qu'il est à l'origine de calamités qui ont frappé Israël, en particulier les sauterelles du verset 9. L'histoire a donc un sens. Nous ne sommes pas dans un monde où les événements sont le fruit du hasard. Non, le mal est entré dans le monde et la justice doit s'exercer contre ce mal. Êtes-vous prêt à accepter qu'un gars qui a découpé une petite fille de 5 ans en 10 morceaux puisse circuler tranquillement et vous serrer la main demain au comptoir d'un bar? Eh bien, si nous ne pouvons supporter une telle situation, je vous invite à prendre le regard de Dieu sur notre humanité et de voir tout à coup comme un visage découvert que Dieu laisse tous les jours impunis ces criminels, des gens qui font du mal alors que lui, le saint, ne peut le supporter. Eh bien, quand nous nous insurgeons devant les phénomènes climatiques et devant ce Dieu qui fait du mal ou qui semble faire du mal, n'avons-nous pas oublié le poids du péché et du mal qui nous a tous contaminés? Dieu agit dans l'histoire et s'y révèle. Nous n'avons pas un Dieu faible. L'homme est responsable de beaucoup de maux. C'est vrai, il est souvent difficile de remettre la faute sur Dieu pour les guerres et pour les bombardements, alors que ce sont les hommes qui larguent les bombes. Pourtant, pour les catastrophes naturelles, ce n'est malheureusement pas aussi simple. Soit nous avons un Dieu faible, et auquel cas il ne peut rien pour moi, ni pour vous, soit il est réellement ce Dieu redoutable qui exprime souvent ses jugements par ces faits terribles que l'homme subit. Mais que faire devant ces événements? Que faire? Souvent, le premier pas de la libération se trouve dans la compréhension du pourquoi des événements. Et cela, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Joël, en qualité de prophète, à savoir de porte-parole de Dieu, explique les événements que Judas est en train de vivre. Il n'atténue pas leur souffrance. Par contre, il leur explique d'où vient le problème. Et ce problème vient du fait qu'ils ont rompu le contrat qu'ils avaient signé avec Dieu, avec les conséquences que cela avait. Mais Dieu ne se contente pas de les punir et de les châtier comme un Dieu sans pitié. Non, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est un retour à lui, un changement radical. Non pas seulement des lamentations, mais nous le verrons la fois prochaine, une réelle repentance. Les catastrophes naturelles ont-elles un sens? Sont-elles ou sont-elles une fatalité? Nous sommes obligés devant ces tremblements de terre, ces ouragans, de constater notre impuissance. Deux attitudes soulèvent notre pensée. Soit ces catastrophes sont le fruit du hasard que nous devons subir de façon fataliste, soit elles sont le fruit d'une volonté divine et elles ont un sens. Le prophète Joël y répond en affirmant que l'histoire a un sens. Le hasard n'a pas sa place. Dieu agit dans notre vie, dans notre histoire. Joël nous invite à les considérer comme l'expression de la sainte colère de Dieu, comme d'ailleurs d'autres textes nous invitent à le faire. L'histoire a un sens. Dieu exerce sa colère, non comme un Dieu qui aurait envie de se défouler, mais à cause de la désobéissance de l'homme. Devant ces catastrophes naturelles, qui sont l'expression de la colère de Dieu, avons-nous réussi à lire le pourquoi de ce phénomène? Cette lecture est difficile pour nous tout seuls, car nous n'avons pas été conçus pour penser dans l'autonomie de notre Créateur. En plus, le cancer de notre monde, le mal, nous a tellement touchés que le sens de l'histoire nous est difficilement accessible par nous-mêmes. Ces jugements ont un caractère partiel et imparfait, en ce sens qu'ils ne sont pas totaux sur le mal de notre monde. Ils atteignent inégalement les individus de sorte qu'ils touchent à la fois le juste et le méchant, nous dit les proverbes. Nous ne voulons pas commettre l'erreur des amis de Job, qui énonçaient comme une règle absolue que la souffrance a pour cause le péché de celui qui souffre. Nous ne voulons pas le systématiser toujours. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, répondait Jésus à ses disciples au sujet d'un aveugle né de naissance. Cependant, l'histoire a un sens. Elle n'est pas livrée à l'arbitraire. Le mal est entré dans le monde par la désobéissance au Seigneur et il reste lié à la désobéissance. De manière ambiguë, cependant, il peut manifester leur caractère mauvais à l'extrême, scandaleux, du mal lorsqu'il frappe des innocents entre guillemets, mystère incompréhensible de la souffrance, ou révéler la colère du Seigneur qui exerce ses jugements. Il règle déjà une partie de ses comptes. Devant la question « Comment un Dieu d'amour permet-il cela ?» celui qui raisonne ainsi est en droit de se poser une nouvelle question. Sommes-nous conscients du poids de notre culpabilité devant un Dieu qui ne supporte pas le mal ? Rappelez-vous, supporterions-nous l'horreur d'un viol ou d'un massacre à la tronçonneuse d'une jeune fille de 10 ans ? Cette lecture est difficile car la colère de Dieu sur le monde se manifeste globalement et pas au cas par cas. Le problème de la souffrance tient en échec toute notre logique et notre compréhension. Pourtant, l'amour de Dieu se manifeste, par contre, en ce que le monde subsiste malgré le péché et les désordres qu'il engendre. Si le monde est encore là, malgré le mal, pour cela il suffit de lire le journal de TF1 à 20h ou celui de France 2, n'est-ce pas un indicateur de la volonté de délivrance, de salut de l'Éternel ? Ainsi, il lève par là une ouverture pour une repentance. D'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament soulignent bien que les châtiments divins ont un but pédagogique qui vise à ramener son peuple à lui ou interpelle le monde pour qu'il se repente. C.S. Lewis, l'un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne du XXe siècle, a écrit « Dieu murmure dans nos plaisirs, il parle dans notre conscience, mais il crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour faire sortir de son indifférence un monde sourd. Les événements difficiles de nos vies ont un sens et nous devons rechercher leur explication à travers la parole de Dieu. Notre cri vers Dieu n'est pas superflu. Dieu l'attend et Dieu le souhaite. Ferons-nous écouter la parole du Maître commentant deux catastrophes ayant causé plusieurs morts ? Je vous invite à lire Luc 13, versets 1 à 5. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs que tous les autres, que tous leurs compatriotes ? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Versets 4 et 5 qui m'intéressent. « Rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous, dit Jésus, qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? » Jésus répond, « Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. » Ainsi pour Joël, le fléau des sauterelles et la sécheresse sont l'occasion, de lancer à son peuple, un appel à la repentance. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois que parfois nous ne comprenons pas vraiment que certaines catastrophes touchent des gens qui a priori n'avaient rien fait de mal. Père éternel, tu nous demandes ce matin de regarder à ce que ces catastrophes sont parfois ton mégaphone pour que vraiment tu puisses amener les gens à s'interpeller sur leur condition, cette condition faible, cette condition emprise du mal, du péché. Merci Seigneur Jésus, merci Père éternel, parce que tu nous appelles parfait par ces fléaux, non comme quelqu'un qui voudrait châtier, qui voudrait punir, mais comme quelqu'un qui veut relever, qui veut délivrer, qui veut amener les gens à la repentance, qui veut amener les gens à se placer dans la confiance en ce Jésus qui justement nous couvre de son sang et nous permet d'avoir accès à toi. sans Jésus, nous sommes mauvais et neutres. Et nous n'avons aucune place avec toi. Vraiment, merci Seigneur Jésus pour ce rappel. Combien difficile, mais fais ta parole qui nous le rappelle. Au nom de Jésus-Christ.